Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'achève d'ailleurs ce lundi 30 septembre. Le thème proposé pour le débat général de cette session est « Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Au cours de la rencontre, le Mali ainsi que d'autres pays du monde ont parlé de leurs préoccupations. Que retenir de cette rencontre des Nations Unies? Les dénonciations du Mali sont-elles en phase avec les réalités du pays? On en parle avec trois invités, Assim Dabou, politologue, Amadou Aya du parti CODEM, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Je suis Mariam Maïga. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la situation dans la bande de Gaza, la crise haïtienne ou encore la situation des pays de l'AIS font partie des sujets longuement discutés durant cette grande messe du multilatéralisme. Que retenir des différents discours du haut du tribune des Nations Unies? Une question tour de table. Je commencerai par vous, Dr Sogodogo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui?
Vous savez, l'ONU est en soi un espace particulier, mais avant de dire un peu ce que j'en pense, je voudrais dire bonjour à toutes ces personnes ou bonsoir à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment, ça dépend de votre fuseau horaire. L'ONU reste cet espace qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour faire en sorte que justement que le monde ne puisse plus connaître une telle guerre globalisée. Et évidemment, cette menace, elle est encore d'actualité et elle est encore plus problématique parce que le monde aujourd'hui est marqué par la détention d'armes nucléaires par au moins 8 pays, ce que nous savons de façon certaine. Et ça veut dire qu'une guerre globalisée aujourd'hui pourrait signifier la fin de l'humanité, en tout cas la fin de la vie sur notre terre. Et donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, quelles que soient toutes ces critiques que nous allons adresser plus tard à l'ONU, elle a quand même ce mérite-là d'avoir permis jusqu'au jour d'aujourd'hui d'éviter cette guerre globalisée qui pourrait causer la fin de l'humanité. Mais au-delà de ça, l'ONU reste un espace où nous devrons le voir comme un espace d'échange, de discussion sur les valeurs qui doivent caractériser l'humanité, mais aussi où les États peuvent faire valoir leurs intérêts et leurs besoins. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que l'ONU n'est pas par essence un espace démocratique. Et cela se constate d'abord par un Conseil de sécurité qui est restreint à 5 pays et qui détient un droit de veto. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans ce monde, d'un point de vue de maintien de paix et de sécurité internationale, doit se faire avec le consentement express de ces États-là. Faute de quoi, rien ne se fait. Et c'est par la même occasion, l'architecture même de cette même organisation crée cette paralysie. C'est regrettable de voir qu'aujourd'hui, dans de nombreux conflits à travers le monde, l'ONU ne peut rien faire. Je prends l'exemple sur le conflit qui oppose depuis de longues années la Palestine et Israël. Le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et voilà même le Mali. L'ONU n'a pas pu donner les réponses attendues par les populations maliennes à travers sa mission, l'AMINUSMA. Donc c'est pour dire que si l'ONU, effectivement, reste en soi quelque chose d'utile à l'humanité, mais elle ne répond pas, effectivement, à toutes les questions qui sont posées aujourd'hui.
Alors, au-delà de l'architecture au sein de l'ONU, cette 79e session, comme d'ailleurs ces dernières années, les débats sont de plus en plus houleux au sein de l'Assemblée, surtout du côté des Africains.
Oui, parce que les Africains, il faut reconnaître que l'ONU a été créée à un moment donné où ils étaient absents. Et donc ces Africains cherchent aujourd'hui à être présents, mais dans les vrais instants de décision. Pas seulement être membre de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée générale de l'ONU, où chacun a une soi-disant droit à la parole et à la liberté d'exprimer ses points de vue, mais d'être là dans les décisions. Et ça, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et aujourd'hui, vous avez des pays africains qui réclament qu'il faut refonder l'ONU.
Et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, si on veut que l'ONU continue à exister et à jouer le rôle avant-gardiste en matière de paix et de sécurité, il faut que l'ONU soit un espace où nous pouvons prévenir les conflits et les prendre en charge avant même qu'elles n'éclatent. Et c'est malheureusement regrettable de voir que la question n'est pas une priorité au vrai des premiers décideurs du monde parce que le Conseil de sécurité est suffisamment jaloux sur ce pouvoir-là pour l'ouvrir à d'autres États. Ils ne sont pas encore prêts.
Assim Dabo, je m'adresse et je me tourne vers vous. Ouais. Qu'est retenir donc de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ?
Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être sur ce prestigieux plateau. Ce que moi j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on peut retenir de clair, de limpide par rapport à cette session, c'est d'abord la nécessité pour les pays africains de comprendre que nous avons un destin commun. Ça veut dire quoi ? Nous sommes partagés de par nos intérêts. Nous n'avons pas peut-être les mêmes partenaires au niveau du plan international, mais on ressent la nécessité de vivre ensemble. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, si vous voyez que presque tous les présidents qui ont eu à parler au niveau de l'ONU pour cette session, chacun était dans la dynamique de la critique par rapport à ce qui se passe. Parce qu'en Afrique, déjà, les Africains partagent cette terre qui est immense et qui est aujourd'hui omnibulée par des guerres. On ne sait pas d'où ça vient. Même si on sait d'où ça vient, on n'est pas souvent assez prêt à faire des concessions pour aller vers la paix. Et cette paix sera une réalité que lorsque nous allons pouvoir nous unir entre nous. Donc chaque fois, quand j'écoute Diomaye Faye, le président sénégalais, il a eu à faire des critiques. Quand j'écoute Abdoulaye Maïga, notre ministre, toujours il a été de la critique. Donc moi je pense que ces critiques-là, il faut aller au-delà de ces critiques-là. Au-delà des critiques, ce que moi je veux retenir surtout, c'est qu'il y ait un consensus entre les pays africains, entre les chefs d'État africains, pour qu'on puisse aller ensemble et porter une seule voix au Conseil des Nations. Parce que tant qu'il n'y a pas cette voix africaine commune, la paix ne sera pas une réalité.
Mais est-ce à dire que les pays africains qui vont à cette Assemblée générale vont à pas disperser ? Oui. Chacun va avec sa propre revendication et non une revendication collégiale au nom de l'Afrique.
Voilà, donc chacun est là pour défendre son petit intérêt, alors que moi j'ai toujours eu à dire qu'il n'y a pas de réussite personnelle de la faillite générale. En Afrique aujourd'hui, c'est la faillite générale. Pourquoi c'est la faillite générale ? Parce que trois pays décident de s'unir en ayant les mêmes objectifs et d'autres sont dispersés ailleurs, alors qu'ils savent que ces trois pays-là ont raison quelque part et c'est des frères. Mais nous sommes en train d'aller de façon à ne pas disperser. Ça ne marche pas. On a le même discours, mais on n'a pas le même chemin. Donc ce que moi je veux surtout que les peuples africains retiennent de par ces sessions, c'est de sentir la nécessité d'être ensemble. Parce que les Européens sont ensemble quand il s'agit des conflits, mais les Africains ont le même discours, mais ils ne sont pas ensemble. Et c'est regrettable. Sinon, nous avons le même discours. On a les mêmes critiques. Mais on a souvent des termes de spécialité. Quand j'écoute Abdoulaye Maïga, il parle de sponsors étatiques étrangers. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Et il y a d'autres, il parle encore de pillage des ressources humaines. On sait qui pille nos ressources. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir ensemble, nous, Africains, au-delà de ces histoires de conseil de l'ONU qui ont dit paix et sécurité. Mais en réalité, paix et sécurité pour qui ? Est-ce que paix et sécurité pour les 5 pays qui sont détenteurs du droit de veto ou paix et sécurité pour le monde ? C'est ce que les Africains n'arrivent pas à comprendre. Tant que les Africains n'arrivent pas à avoir cette tribune pour nous-mêmes réfléchir par rapport à nos intérêts personnels et aller au Conseil des Nations pour porter cette voix, ça ne marche pas. C'est des discours vains.
Amadou Aya, partagez-vous l'avis de vos deux co-débatteurs. L'ONU, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça assemble les gens, c'est un lieu où aujourd'hui on discute paix ou on cherche solution au conflit ?
Merci beaucoup de l'invitation. Salut en tout cas l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani qui travaillent depuis plusieurs années pour que le plus grand nombre, n'est-ce pas, des Maliens puissent, en tout cas, vous entendre. Ceci étant dit, l'ONU, effectivement, est devenu un espace où les nations viennent, en tout cas, en septembre, chacun exprimer ses préoccupations, faire des propositions. Mais cette voix africaine dont on parle avait été déjà portée pendant plusieurs années. Je me souviens que déjà la 23e session ordinaire de l'Assemblée générale, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dr Ousmane Ba, avait porté cette voix. C'était sous la Première République, d'ailleurs, où on disait tant que le Mali ne parle pas, l'Afrique n'avait pas encore parlé. C'était aussi des discours, effectivement, qui mettaient le doigt sur l'État et les mots que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons vu les discours des gens comme Fidel Castro, des discours des gens comme Amadou Ampateba, des discours des gens comme Thomas Sankara, Feu Thomas Sankara. Tout ceci ont eu à dénoncer aujourd'hui ce que nous, aujourd'hui, nous dénonçons. Alors, est-ce que ça vaut la peine de continuer à dénoncer le point? C'est là où il y a le point d'interrogation. C'est là où les Africains doivent, en fait, se réfléchir. Je ne pense pas que l'Afrique doit parler, à mon avis, d'une seule voix. Ce n'est pas possible, c'est vain. Parce que ces conflits dont on parle qui existent en Afrique existent un peu partout, au Moyen-Orient, en Europe aussi, il existe des conflits. Pour autant, on dit qu'ils sont ensemble. Mais je pense que l'ONU est devenu un espace de jeu d'intérêt où cinq nations, cinq pays se les partagent. Ces cinq pays, disons, qui ont le droit de veto, qui font le jeu aujourd'hui du reste du monde. Quoi que vous fassiez, il faut être aligné à l'un ou l'autre. Parce que si vous vous souvenez que quand l'ONU a voulu, à un moment donné, prendre des résolutions contre le Mali, il a fallu que l'Union soviétique, la Russie, pose son droit de veto, etc., etc. Donc, je pense que c'est vrai, oui, il faut exprimer ses couleurs. Il faut faire des propositions. Et c'est pour cela que je dis que quand on regarde les discours de nos devanciers, ils ont critiqué, ils ont fait des propositions. Mais ça continue.
Amadou, permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Nos devanciers, ils ont critiqué, ils ont fait des propositions, mais ça ne bouge pas. Est-ce que ce n'est pas parce que le discours n'a pas de poids ou ce ne sont que des propos pratiquement? Parce que ce qu'on remarque de plus en plus, surtout au sein de l'Assemblée générale, à chaque rencontre maintenant au sein des Nations Unies, c'est des réponses du berger à la bergère maintenant.
Oui, c'est important que les coups soient donnés. Les coups sont permis à ce niveau. Mm-hmm. Comme on le dit, il y a un adage qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Je crois que le Mali et certains pays africains sont arrivés à ce niveau où il faut répondre, n'est-ce pas, coup par coup. Mais pour autant, les choses ne bougent pas parce que, comme on le dit, il y a cinq pays dans le monde qui ont le droit de voter et qui orientent les décisions.
Alors, s'agissant du droit de veto, des pays africains ont donné déjà de la voix pour soutenir un projet de réforme au sein de l'ONU qui vise à octroyer au moins deux places pour des pays africains. Et concrètement, je ne sais pas si lors de cette Assemblée générale qui doit s'achever aujourd'hui, je pense dans la soirée, est-ce que cette réforme-là, qu'est-ce que cela vaut réellement pour l'Afrique, si ça peut passer aujourd'hui?
Oui, mais c'est une vieille proposition, les réformes au niveau du Conseil de sécurité.
Et qui devient insistante ces temps-ci.
Exactement. Oui, ça pourrait, en fait, si l'Afrique a des droits de veto, oui, ça pourrait influencer, en ce moment, si l'Afrique parle d'une même voix. Ça pourrait influencer les décisions qui seront prises au niveau de ce Conseil de sécurité. Mais je pense qu'il y a une discrimination, en tout cas, à ce niveau, où on a besoin, c'est pour cela qu'on parle de plus en plus des réformes profondes au niveau du Conseil de sécurité, au niveau, n'est-ce pas, de l'ONU, afin que les pays aient en tout cas les mêmes droits. Quand on parle de démocratie, mais bon, c'est que l'ONU qui fait la promotion de la démocratie, qui au sein d'elle-même, n'est-ce pas, il n'y a pas de démocratie. Donc je pense qu'il est important que cette réforme puisse aboutir, afin que, en tout cas, il y ait un certain équilibre à travers, en tout cas, les prises de décision à travers dans le monde.
Je vous prends au mot. ONU, espace où il n'y a pas de démocratie. Et puis, il vient de le dire également dans ses propos, c'est un espace de jeu d'intérêt. Est-ce que dans ce jeu d'intérêt, on peut dire qu'aujourd'hui, une place de représentant pour les pays africains serait de l'utopie à ce stade où on peut dire que peut-être qu'ils vont sérieusement y songer d'ici la fin de cette session, Dr Abdoul Sogodogo?
Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance de voir l'ONU reformée et qu'on donne une place en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand j'étais encore au lycée, sous l'influence de mon prof d'histoire, je pensais qu'effectivement, peut-être que ça allait se faire. Mais quand j'ai commencé mes études, juste après le bac en relations internationales, et voilà, j'ai compris que bon, c'est vrai que l'espace ne permet pas de faire une longue démonstration, mais je vais vous dire que ce système tel qu'il est construit, les dynamiques en interne et les ambitions portées par les grandes puissances ne leur permettent pas d'élargir le gâteau et de faire de la place à d'autres acteurs. Les enjeux sont très énormes, les places s'arrachent. Et aujourd'hui, peut-être que c'est comme ce qui est arrivé par le passé, c'est triste, on ne le souhaite pas. On espère que cette remise en cause de cet ordre international va pouvoir, ce combat sera peut-être mené sans en faire un combat sanglant. Parce que à chaque fois qu'il y a un ordre qui s'est installé, ça s'est fait au prix des guerres. Et on espère que la guerre n'est plus un luxe qu'on peut se permettre parce que chacune de ces puissances nucléaires à elle seule peut détruire de nombreuses planètes. Ne parlons même pas de notre seule planète. Ils ont suffisamment de réserves d'armement pour détruire notre planète. Donc la guerre n'est pas une option. Et comment est-ce qu'on va passer de l'ONU à une nouvelle organisation plus démocratique qui représente plus les valeurs humaines et dans laquelle la plupart des États vont se retrouver qui va être un monde démocratique? Parce que l'idéal qui semble mener aujourd'hui la dynamique du monde, c'est le modèle d'économie capitaliste et de démocratie libérale. Mais comment ce modèle peut réellement diriger le monde et qu'il soit sincère, véritable, dans lequel chaque acteur est véritablement impliqué et peut voir ses intérêts et ses besoins pris en compte? C'est une équation complexe. Complexe parce que les intérêts sont suffisamment contradictoires et les acteurs sont assez puissants pour pouvoir défendre leur position. Donc c'est un jeu très complexe et dont la solution n'est pas du tout évidente. Mais j'ose croire que quelque part l'inspiration va venir d'ailleurs. L'inspiration que la survie finalement de l'être humain, il va falloir regarder d'autres types d'identités que nous partageons ensemble, qui est notre identité humaine en fait, en fin de compte. Et que la planète, elle est peut-être le seul espace où la vie humaine est propice et qu'il va falloir qu'on s'entende pour pouvoir chacun survivre dedans.
D'accord. Vous l'avez dit, peu de place pour la démonstration, mais vous allez garder la parole, le temps de nous démontrer ça également. C'est vrai que vous avez dit qu'il y a peu de chances que cela passe pour les pays africains actuellement. Mais aujourd'hui, vu que l'Afrique n'a pas de droit de veto, comment elle devrait procéder pour se faire entendre, pour faire bouger les lignes?
À mon avis, c'était le rôle de l'intégration africaine. C'est-à-dire que quand l'Union africaine met tout un dispositif en place pour le maintien de la paix et de la sécurité, il aurait été souhaitable que l'Afrique soit en mesure, par exemple, de s'occuper des questions africaines, que ce soit en termes de politique de développement, comme on a vu avec le NEPAD. Malheureusement, les pays africains, même s'ils ont développé cette fois-ci, on a pensé nous-mêmes une stratégie de développement global, mais le financement, les États n'arrivent pas à apporter ce qu'il faut pour financer. Et on continue à compter sur les autres pour financer ce programme. Ce qui fait que le NEPAD traîne. D'un point de vue sécuritaire, j'ai vécu la crise malienne de très près, parce que au vu de ma position sociale, de qui je suis, Mais je veux dire que, est-ce qu'il fallait que l'ONU intervienne? Je ne pense pas qu'il fallait la MINUSMA. C'est la CEDEAO qui a essayé en un premier temps, mais elle s'est rapidement rendue compte qu'au-delà de la stabilisation des institutions pour aller aux élections en 2013, qu'elle ne pouvait pas se battre auprès du Mali pour le recouvrement de la souveraineté totale du Mali sur l'ensemble, en tout cas le redéploiement de l'armée et la stabilisation de ce pays. La CEDEAO s'est sentie incapable
de jouer ce rôle. Et c'est pour cela qu'elle accepte la venue de l'ONU. Je pense qu'il faut que l'Afrique, au-delà de ce jeu international, c'est-à-dire mondialisé, que nous puissions nous penser peut-être comme une région et développer des mécanismes suffisamment africains pour justement prendre en charge la problématique de la paix et de, du développement. Pour sortir de ce point-là, si par exemple ces pays étaient suffisamment engagés et organisés, et que chacun avait, dès 2011, lors de la crise libyenne, porté main forte à la Libye, parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux les dessous de ce problème-là, peut-être que, je crois que nous ne serons pas dans cette situation. Et même avec le débordement de la Libye, quand le Mali a commencé à avoir toutes ses difficultés en 2012, si on avait eu tout le soutien de nos voisins immédiats, tels que le Burkina, tels que le Niger, tels que la Mauritanie, etc., je suis sûr qu'on aurait contenu cette difficulté au bout de quelques mois ou sinon quelques années. Ça fait plus de 10 ans et nous en sommes encore au cœur de ce problème. Et avec toutes les perspectives de toutes sortes qui sont envisagées, peut-être finalement, c'est est-ce que la question n'est pas ailleurs? Finalement, est-ce que l'Afrique, peut-être finalement, ne doit pas décider de s'assumer sur la scène internationale?
Mais est-ce que l'Afrique va se laisser tout le temps qu'on décide à sa place? Hein, Sim Dabo, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes également sceptique sur la question, comme Dr Sogodogo, qu'on n'aura pas de place à la table pour le Conseil de sécurité?
Très bien. Moi, je remercie d'abord l'expertise de mes aînés par rapport à cette question qui est très, très complexe, comme il allait dire. Moi, j'ai envie de développer quelques idées. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe, selon moi, Inch'Allah. Allez-y. Déjà, quand je parlais de parler d'une seule voix, ça, c'est par rapport à l'union. Et on peut être unis tout en étant dans la diversité. Parce que la diversité, comme le disait Amadou Ampateba, c'est-à-dire la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit, vous savez ce que l'ONU fait? C'est-à-dire on te donne la liberté d'expression, mais sans pouvoir. Ça n'ira nulle part. On te donne la liberté de t'exprimer, mais en bas, tu n'as pas de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tant que ces pays africains vont continuer à aller de l'autre côté pour parler de leurs problèmes, pour ne pas dire défi, parce que moi, je suis issu de l'univers des experts, explique. Là-bas, on ne parle pas de problème, on dit toujours défi, parce que la vie, c'est un défi à relever, pas un problème à vivre. Donc, tant qu'on va là-bas pour parler de nos problèmes, ils vont étudier nos problèmes et trouver des solutions pour qu'on ne puisse pas développer des solutions et résoudre ces problèmes-là.
Donc, Autrement dit, il ne faudrait pas qu'on y aille.
Non, bon.
Que l'Afrique n'aille pas à ces rencontres-là.
Pas du tout. Il y a une méthode. Au lieu que ça soit toujours Russie-Afrique, quand on dit Russie-Afrique, les Africains sont tous là-bas. Quand on dit Chine-Afrique, les Africains sont tous là-bas. Quand on dit France-Afrique, les Africains sont tous là-bas. Mais moi, j'ai envie de poser une seule question. À quand Afrique-Afrique? Parce que tant qu'on n'est pas capable de nous organiser entre nous en ayant une vue globale sur les problèmes qu'on a à gérer chez nous, on ne peut pas avoir du pouvoir chez les autres. Donc nous, on veut quitter notre terre et avoir de la place ailleurs. Le Conseil de sécurité, là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Mais ils ont besoin de notre continent. Ils ont besoin de collaborer avec nous pour pouvoir extraire nos ressources. Tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Les Français, eux-mêmes, souvent, quand ils sont en transe, ils disent la paix. Mais la paix n'a jamais été une réalité en Afrique parce que nos ressources sont là. Bizarrement, quand il y a des ressources au niveau de ton sous-sol, il y a une guerre qui éclate, on ne sait pas d'où ça vient. Donc moi, j'ai envie de dire aux Africains, c'est bien de partir là-bas, mais avant de partir là-bas, soyons organisés chez nous. Comme ça, on va mieux parler là-bas. C'est tout.
Amadou Aya, je me tourne vers vous. Il l'a dit, le Conseil de sécurité n'est pas fait pour nous, les Africains. Protégez-vous déjà cet avis qu'il vient de partager tout à l'heure?
Pas du tout. Le Conseil de sécurité, on ne peut pas dire que ce n'est pas fait pour les Africains, parce que c'est pour ça que d'ailleurs, les réformes sont sollicités. Vous savez, quand on regarde même l'histoire même de notre continent, au début des indépendances, on avait l'OUA qui avait un objectif qui était à l'époque quand même la décolonisation de l'Afrique et un certain nombre d'objectifs. Mais on a évolué, quand l'Afrique est totalement décolonisée, on est arrivé à l'Union africaine.
UA.
Donc tout ça, c'est des dynamiques qui font que le monde c'est évolue. Et avec cette évolution, je pense que l'ONU va évoluer, parce qu'elle aussi, elle a évolué dans un certain nombre de ses comportements. Vous avez vu, au début des indépendances, on avait quand même les non-alignés qui ont voulu aussi s'organiser pour avoir une réponse à cette partie, en tout cas, de l'Union africaine, des Nations Unies, qui ont voulu servir, en tout cas. Donc, à mon avis, ce qui est important, les discours qui sont portés aujourd'hui vont faire évoluer la jeunesse africaine, vont faire évoluer, faire bouger, même au niveau en tout cas de ces nations, ils vont bouger, pour que plus tard nous puissions avoir des futures générations qui pourront peut-être aussi en ce moment siéger au niveau de ce Conseil de sécurité. Nous ne devrons pas être défaitistes. Nous savons que le jeu est difficile. On sait que le contexte n'est pas favorable, mais nous devrons continuer à travailler, à faire comprendre également à ces nations que nous sommes une nation qui réfléchit, une nation qui doit compter et faire en sorte que, au niveau, n'est-ce pas, de cette grande messe, n'est-ce pas, des Nations Unies, que l'Afrique puisse porter sa voix. Là où je suis d'accord, effectivement, l'Afrique doit travailler à avoir une seule voix, même si c'est des voix par zone. Nous devrons travailler à harmoniser nos positions, ce que l'Union africaine n'est pas arrivée à faire, parce que même au niveau de cette grande messe, l'Union africaine, il y a le président de l'Union africaine qui va porter également la voix de l'Afrique à côté des discours des nations. Je pense que les Nations Unies est une organisation qui nous appartient à nous tous, mais c'est vrai, ce que nous constatons, il y a un grand déséquilibre, il y a une grande injustice, n'est-ce pas? Et cette injustice, nous devrons l'analyser et voir comment nous en sortir pour que l'Afrique puisse enfin être, en tout cas, puisse compter dans ce grand concert. C'est pas facile, c'est très difficile, mais je pense que de la création, il y a 79 ans, n'est-ce pas, des Nations Unies à maintenant, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Et nous devrons continuer à travailler à ce que cette avancée-là puisse, n'est-ce pas, aboutir à faire en sorte que l'Afrique puisse être, en tout cas, jure pleinement de son destin. Et ce qui n'est pas facile.
Au moins, vous êtes d'accord tous que l'Afrique doit s'unir pour avoir une place, pour se faire entendre lors de cette grande messe également. Mais comme il fallait s'y attendre du côté du Mali, on n'est pas allé avec le dos de la cuillère à cette rencontre. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé plusieurs cas de violations en matière des relations internationales. Alors, Assimi Dabo, ces revendications sont-elles en phase avec les réalités nationales?
Je dirais bien évidemment. Voilà pourquoi je tiens à signaler. Moi, vous savez, j'aime les réformes. Mm-hmm. On a toujours eu, c'est-à-dire, la volonté de faire des réformes. Mais est-ce que ces réformes-là ont été prises en compte? C'est ça mon souci. C'est ça le défi. C'est-à-dire, depuis combien d'années? Plus de 60 ans, on ne fait que des réformes qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Ça dérange. Donc, quand vous parlez de Ablaye Maïga, les Africains aiment ça. Ça, c'est la dynamique de l'AES. Parce que déjà, ce que lui dénonce, c'est ce que nous vivons ici. Nous ne sommes pas contre les Blancs, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique doit miser sur l'éducation. Mais on n'arrive pas à miser sur l'éducation parce qu'il y a des guerres qui sont installées autour de nous, des guerres qui sont, c'est-à-dire, déplacées d'un endroit à un autre pour qu'on ne puisse même pas avoir le temps, l'énergie, l'intelligence de pouvoir apprendre et pouvoir peser de l'autre côté. Donc moi, je suis d'accord avec tout ce que notre cher Ablaye Maïga a à dire, parce qu'il défend ses intérêts-là et il parle des défis auxquels les Africains sont confrontés quotidiennement. Même, regardez, moi, pourquoi je suis énervé contre tout ce qui se passe là-bas. Nous, les pays africains, on est capable d'aller là-bas pour parler de ce qui se passe chez nous, mais on n'est pas capable de parler entre nous, AES, CDAO.
Alors, on a l'impression que le fait qu'on ne parvient pas à se parler entre nous ici, on va régler nos comptes également là-bas. Parce qu'on a l'impression que certains pays africains, au lieu de d'être porte-parole ou de porter la parole des problèmes du pays en question, chercher des solutions. On va pour répondre également.
Mais le linge sale, c'est là où?
Pas sur la place publique. En Afrique, on dit le linge sale se lave en famille, pas la place publique. La tribune, excusez-moi, des Nations Unies, c'est la place publique.
C'est la place publique. Moi, je suis dans une logique qui dit quoi? Mm-hmm. On n'est pas contre eux, mais on veut vivre en paix chez nous. Mais on ne peut pas vivre en paix chez nous si on n'est pas capable de nous organiser. Cela ne veut pas dire que l'ONU n'est pas fait pour tout le monde. L'ONU est fait pour tout le monde, mais quand vous êtes dans une famille, lorsqu'on partage les plats, on te donne un morceau, les autres sont en train de manger, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils versent les restes, on se dit à un moment donné, est-ce que c'est pour moi? Cela ne veut pas dire qu'on ne t'a pas donné une partie, mais cette partie-là, c'est une miette quand même. Donc nous, ce que nous voulons en tant que pays africains, mm-hmm. c'est que nos dirigeants s'assument à la Assimi Goïta, à la, je ne sais pas, je ne vais pas citer d'autres noms, mm-hmm. mais juste pour dire qu'on a tout pour réussir. Tout ce qui nous manque, c'est de venir ensemble, s'asseoir, pas toujours être d'accord, mais avoir des accords communs pour qu'on puisse mieux nous faire entendre là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est pour nous tous, mais qui gagne plus?
Docteur Abdoul Sogodogo, il a dit qui gagne plus. Est-ce que les revendications portées par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, sont en phase avec les réalités nationales?
Oui, et ça fait quand même un moment depuis... la chute du régime Ibeka, le discours du Mali à l'ONU a changé parce que c'est une organisation déjà entre laquelle et le Mali, il y a une méfiance qui s'est installée. Si je dis méfiance, ce n'est pas d'un point de vue institutionnel, mais il y a quand même des acteurs importants au sein de l'ONU et voilà, qui n'ont pas les mêmes positions que le Mali et le Mali a su pour peut-être... en tout cas, ces dernières années, on voit que c'est l'un des rares pays qui a réussi quand même à arrêter une mission des Nations Unies. Donc, ce n'est pas chose aisée. C'est qu'il y a eu un travail diplomatique de fond, peut-être qui est vraiment à saluer. Et aussi, l'ONU a servi d'espace pour permettre à toute l'humanité de se comprendre et de savoir ce qui se passait au Mali. Et que si les Maliens avaient besoin peut-être d'une mission, que certains ont appelé mission robuste, que la façon dont elle était présentée par l'ONU, c'était une opération tout simplement de maintien de paix où on interposait des forces entre l'armée régulière et les groupes armés dits indépendantistes. Alors que la réalité du terrain était tout autre chose, parce que pour le Mali, il a besoin du soutien de la communauté internationale pour le recouvrement de son territoire national. Donc, voyez-vous, donc c'est des logiques contradictoires et ce jeu n'était pas suffisamment compris par beaucoup d'acteurs sur la scène internationale. Donc ce discours du ministre d'État ne nous surprend pas parce qu'il s'inscrit justement dans ce flot, dans cette lignée depuis ces années-là. Maintenant, qu'est-ce que les Maliens pensent de l'ONU? Qu'est-ce que les Africains pensent de façon globale de l'ONU? Je pense que cela n'a pas beaucoup changé parce que l'ONU est vue comme les réalistes le diront, un espace de domination. Parce qu'il faut le reconnaître que les États, d'un point de vue réaliste ou néo-réaliste, les États sont mus avant tout par leurs propres besoins et leurs intérêts. Quand une institution internationale ne répond plus à leurs besoins, à leurs intérêts, ils s'en dénoient. On a vu les États-Unis se retirer de l'UNICEF, on a vu l'Angleterre se retirer de l'Union européenne, ainsi de suite. Donc, ces pays peuvent aussi revenir. Donc, ne soyons pas surpris, même des pays par le passé, je crois que, voilà, un pays asiatique, le nom m'échappe, s'est retiré de l'ONU et est revenu après. Voilà, ça arrive. Même on peut voir des États se retirer de l'ONU pour dire que nous ne cautionnons pas la politique de l'ONU dans notre pays ou dans notre espace régional. Le défi, en fait, je pense que pour l'ONU, c'est d'arriver à se métamorphoser comme un serpent pour pouvoir voir de beaux jours avant lui. Parce que même si on donnait une voix à l'Afrique aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité, est-ce que ça résout les véritables problèmes? Parce que le véritable problème, c'est comment faire pour que l'ONU puisse rester le maître absolu dans la conduite, dans la gestion des conflits qui ébranlent la paix et la sécurité internationale. Qu'est-ce que l'ONU peut faire dans le conflit israélien? C'est ça la question. Qu'est-ce que l'ONU peut faire dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie?
Qu'est-ce que l'ONU peut faire pour que le Mali puisse retrouver sa paix? Et je ne pense pas si on donnait une voix au Conseil de sécurité au Niger ou au Burkina, des pays que j'aime bien, est-ce que ça va résoudre les problèmes de l'Afrique? La réponse n'est pas évidente, naturellement. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on accepte que le monde a évolué. Quand on crée l'ONU en 1945, il n'y avait pas autant d'États sur la scène internationale, parce que ces États étaient sous domination des puissances coloniales. Et aujourd'hui, ces États sont indépendants, ils veulent se mouvoir. Et l'ONU a pris en charge une de leurs premières douleurs dans les années 60, qui était le besoin de développement. C'est ce qui a amené l'ONU à créer ce qu'on appelle les organismes de développement, les organismes spécialisés de l'ONU, le PNUD, l'OMS. L'ONU n'a pas été créé avec ces organismes. C'est parce que les pays en retard de développement, que moi j'aime appeler les pays les moins industrialisés, ont demandé qu'il faut que le système international qui a été instauré avant leur venue, qui leur était défavorable, puissent être réformés pour qu'ils puissent tirer avantage de cette collaboration internationale. C'est comme ça que l'ONU a pris en charge ce besoin de développement et a créé la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSET, que l'ONU a créé, l'OMS, FAO, etc. Mais il y a un autre problème qui est resté sans solution jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comment carrément redistribuer le jeu économique. Parce que c'est là que les pays du tiers-monde, on réclamait un nouvel ordre économique international. Parce que l'ONU aussi est basée sur un système qu'on appelle le système de Bretton Woods, c'est ces institutions financières internationales. Et ce sont ces institutions aussi qui servent de levier de domination de l'opinion de certains États. Et qui a promu le dollar comme étant un système monétaire, et qui ce dollar-là est au cœur de la puissance américaine. Et même s'il est vrai qu'il est lui-même de plus en plus remis en cause récemment par la Chine, le traité de Shanghai, et où la Chine dit désormais, en fait, moi je vais acheter le pétrole avec le yuan et non plus le dollar. C'est une nouvelle question qui est posée à ce système international. Maintenant, pour terminer, comment est-ce qu'on met un système en place qui doit nous permettre de vivre en paix, mais dans ce même système, quand on débat des questions de paix, en un moment donné, certains se retirent pour décider à la place de tous. C'est aberrant.
La question est suspendue, donc. Amadou Aya, je me tourne vers vous. Le Mali parle, le Mali se fait entendre. Et quand le Mali se fait entendre, les débats vont de chaque côté, ça devient très houleux au sein de la salle. Est-ce que cette posture du Mali au sein des Nations Unies a des conséquences aujourd'hui?
Bon, des conséquences. Vous savez, le Mali a défini trois principes de la transition, les 3 D. Le développement, la diplomatie et la défense. Donc, quand vous voyez le D de la défense, de la diplomatie, oui, ça porte. Parce que, vous savez, depuis le premier discours du Premier ministre, quand il a dit la France nous a abandonnés en plein vol, on sait jusqu'à maintenant l'impact de ce discours sur, n'est-ce pas, les Nations Unies. Mm-hmm. Nous sommes arrivés jusqu'à, n'est-ce pas, dénoncer le porte-plume de la France. Donc je pense que ce type de discours ont un impact, ont un écho au sein, en tout cas, de la jeune génération, qui leur permet de se poser des questions pour dire, on ne savait pas que c'était comme ça, mais désormais, oui, nous ne sommes pas d'accord parce que nous connaissons, nous, également, le système. La connaissance des mécanismes du système est un début de solution, souvent, même si souvent c'est complexe, comme le cas de l'ONU, quand vous parlez des institutions de Bretton Woods, c'est très complexe, même si aujourd'hui la Chine parle de que je vais payer le pétrole en yuan, mais très difficile de se défaire, en tout cas aujourd'hui, du dollar qui est, n'est-ce pas, sur lequel repose toute l'économie mondiale. Donc c'est pour dire que je pense que quand le Mali parle, je disais à l'entame de mes propos, déjà à la 23e session, on attendait toujours la voix du Mali. Mm-hmm. Donc quand vous voyez, c'est un discours de l'époque, mais on se retrouve aujourd'hui à peu près au même discours. Peut-être que le contexte a changé et aujourd'hui nous sommes dans un contexte très difficile de développement, mais de sécurité, et j'en passe. Donc je pense que le Mali, en portant haut, n'est-ce pas, sa voix, dans des termes, n'est-ce pas, diplomatiques, mais souvent...
très dur.
Mais souvent en répondant, oui, au berger, à la bergère, en ce moment, je pense que ça permet de dire aux autres pays, faites attention, oui, ils peuvent nous porter le coup.
Alors, certains pays, faites attention. Le Mali a cité, d'ailleurs, a l'habitude de citer des pays à la tribune des Nations Unies pour dire tel pays a fait ça, tel pays a fait ça. Est-ce que cela ne peut pas créer des gênes dans les relations diplomatiques avec ces pays, ou est-ce que cela peut envenimer davantage les relations entre le Mali et certains pays, cette posture affichée désormais des dirigeants maliens?
Bon, moi, je pense que c'est fait exprès.
C'est fait exprès.
C'est fait exprès parce que notre président, avec ses ministres, ont compris que nous sommes dans une guerre de communication. C'est une guerre de communication. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il est important souvent d'appeler les chats par son nom, mm-hmm, pour qu'on puisse avancer dans les temps. Et c'est historique parce que, comme notre cher aîné vient de le dire tout de suite, depuis la 23e session, là, c'est à peu près le même discours. On a dépassé plus de 70 sessions. Ça veut dire que ces discours-là sont inscrits dans notre patrimoine. Les jeunes vont écouter encore et encore jusqu'à ce qu'ils seront convaincus. Et de par cette dynamique, ils vont pouvoir prendre des positions nobles par rapport au devenir de notre continent. Et ça, ce côté est positif. Parce que les gens doivent savoir, l'objectif principal de l'ONU, c'est maintenir la paix et la sécurité. On doit évaluer les choses. Est-ce que la paix et la sécurité est une réalité en Afrique?
On me dit qu'il nous reste moins de 3 minutes pour clore cette émission.
On peut évaluer rapidement et voir l'efficacité de la chose.
D'accord. Docteur Abdoul, je me tourne vers vous. Lors de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, certains pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont demandé à ce que les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina, soient aidés, même s'ils ne font pas la demande. Est-ce que cela est possible? Et si c'est réellement le cas, qui pourrait être le profil de ce médiateur-là auprès de ces trois pays-là aujourd'hui?
Je ne pense pas que la porte soit ouverte à une médiation, parce que je ne la vois pas. Et ce qu'il faut, c'est de refonder la CEDEAO. Et je pense que c'est la seule vraie question qui mérite aujourd'hui d'être posée, parce que les États qui se retirent vont continuer à s'éloigner tant qu'on ne mettra pas le doigt sur les vraies questions, les vrais problèmes qui minent la CEDEAO, et qu'ensemble, on puisse donner un nouveau visage, un autre cœur, d'autres valeurs à cette institution.
Amadou Aya, la dernière question, la dernière intervention sera pour vous en 30 secondes. Aujourd'hui, les tensions diplomatiques du Mali envers avec certains pays, comment y mettre fin, ou on va continuer dans cet état-là? À chaque fois que le Mali a attaqué, le Mali va frapper encore plus fort.
Oui, ça a été annoncé. Et le Mali désormais répondra coup par coup. Donc nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays responsable. Nous avons des dirigeants aujourd'hui qui ont compris qu'effectivement, il faut appeler chat par chat, comme on le dit, et qu'il faut donner les coups, tous les coups sont permis, parce que c'est ça, je pense que c'est ce discours que les gens comprennent.
Alors, c'est sous vos mots que va prendre fin cette émission de débat du Grand Dialogue, qui réfléchissait sur la participation de l'Afrique, notamment celle du Mali, à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Grand merci à nos invités, Assim Dabo, politologue, Amadou Aya du parti CODEM, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur. Je suis Mariam Maïga, la régie son et vidéo, il y avait Adjaratou Traoré et Mamadou Ouattara. Grand merci à vous pour votre fidélité, et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.